Aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets très intéressants, divers. Je suis certain qu'il y a aussi un lien entre eux. On va essayer de le faire. On va parler déjà du Shabbat qui arrive, l'année où Ayom Yom a été écrit, c'est-à-dire en 5703, en 1943. Donc 5703 de l'année hébraïque et 1943 de l'année civile. Eh bien, c'était une année où le 24 Iyar, aujourd'hui, tombait un Shabbat, et c'est le Shabbat qui bénit le mois de Sivan. Donc il y a toujours une importance particulière chez les Chassidim, dans une année qui tombe, dans un Shabbat qui tombe avant Rosh Chodesh. On dit tout le Tehillim tôt le matin, le fait de le dire tôt le matin. Il y a même un autre Ayom Yom qui dit que ça a un impact sur les enfants, sur les petits-enfants, et le Rabbi a beaucoup insisté sur ce sujet. Il a même dit que une fois que quand Mashiach arrivera, il connaîtra pas de combine, il n'écoutera pas les différentes excuses qu'on va lui donner. Il demandera combien de juifs, sur combien de juifs on a réussi à les inspirer, à les influencer pour qu'ils fassent le Chumash, le Tehillim, le Tanya du jour et le Tehillim Shabbat de Vachim, le Tehillim du matin du Shabbat qui bénit le mois suivant. Donc, il y a vraiment une particularité parce que c'est rapporté, je pense, 13 fois dans tout le Ayom Yom. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est répété que le Shabbat qui bénit le mois, on doit absolument faire Tehillim le matin. C'est aussi un jour de Farbrengen. Et c'est un Shabbat particulier parce que ce Shabbat, comme en 1943, on lit la paracha de Bechukotai, la paracha dans laquelle il y a les malédictions. Alors, il y a différentes coutumes, d'ailleurs des coutumes très intéressantes. Il y a des différentes façons de faire monter, parce que comprenez bien que pas tout le monde ne veut monter à la Torah dans une montée où on dit des malédictions, même si dans la chassidoute on explique qu'en réalité c'est des bénédictions. Mais par exemple, dans certains livres, c'est ramené les coutumes suivantes. On fait pas monter quelqu'un qui déteste celui qui lit la Torah, et on ne fait pas monter quelqu'un que celui qui lit la Torah déteste. Aussi personne ne veut monter, c'est très important que quelqu'un se lève, d'accord? Donc c'est pour vous dire, c'est pas la coutume qu'on va dire aujourd'hui. La coutume Chabad, c'est que celui qui a l'habitude de lire, eh bien c'est lui qui montera, mais simplement pour vous faire comprendre l'ampleur du sujet et l'importance et la divergence d'opinion sur le sujet, vous aide à comprendre un peu de quoi on parle. Si personne ne veut monter, on va avoir une mitzvah de se lever et de le faire. On a aussi une coutume dans certaines synagogues que celui qui monte ne fait pas de bénédiction avant et après. Vous imaginez ce que ça représente. Quelqu'un qui a été appelé qui ne monte pas, c'est considéré comme quelque chose de négatif, d'accord, de laisser une partie de la Torah comme ça de côté. Et dans beaucoup d'endroits, on a l'habitude que les gens lisent, que ce soit celui qui lit la Torah qui monte, d'accord. Donc ça, c'est la coutume Chabad. Certains ont l'habitude de monter deux fois. Donc ils montent une première montée. Alors vous allez me dire, non, mais on ne peut pas monter deux fois. Non, là, on monte à la Torah. Pour ceux qui ont l'habitude, on monte une première fois. Ils montent une fois, même dans une journée, il y a beaucoup qui ne montent pas. Alors, deux choses très intéressantes sur ça, c'est que, premièrement, le Kohen monte deux fois quand il n'y a pas de Lévi. Et deuxièmement, il y a une lettre où le Rabbi écrit à un endeuillé. Et il lui dit que c'est bien qu'il monte Shabbat matin et Shabbat Amincha. Donc il y a cette notion qui existe de monter deux fois. En tout cas, on comprend bien qu'il y a beaucoup de discussions sur ce sujet, et que la coutume Chabad, quelque part, elle résout pas mal de problèmes dans le sens où elle demande à celui qui lit de monter et on ne l'appelle pas. Ok. Troisième point d'aujourd'hui, on dit Avar HaChamim. Alors, Avar HaChamim, c'est un texte qui parle de ceux qui sont morts à travers les générations, mais c'est un texte qui a été institué après les premières croisades en 1096. Et donc on a l'habitude de le dire tous les Shabbats, à part les Shabbats qui tombent un jour où on n'aurait pas dit Tachanoun si c'était tombé la semaine. Donc je donne un exemple. Purim, cette année, si je me trompe pas, c'est tombé un vendredi. Donc Shushan Purim, on ne dit pas Tachanoun. On n'a pas dit Av Arachamim. C'est une prière qui est juste avant Acheré, qui est juste avant Moussaf. Et donc il y a des moments dans l'année où on ne le dit pas. Si c'est un jour, on ne dit pas Tachanoun en semaine. Et donc c'est une prière qui est juste avant Moussaf, comme on l'a dit. Par contre, le Shabbat qui bénit le mois de Sivan, on l'a dit. Pourquoi? Parce que le mois de Sivan a été un mois dans lequel il y a eu beaucoup de souffrance pour le peuple juif. Certains disent même que dans le monde ashkénaze, la raison pour laquelle on fait toutes les coutumes de deuil, etc., c'est peut-être davantage pour les croisades, les pogroms qui ont eu lieu pendant cette période que pour le fait que les élèves de Rabbi Akiva sont partis. Et donc, c'est le troisième point. Quatrième point, et là on rentre dans un sujet un peu plus philosophique. La paracha, elle commence par Bechukotai. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, je dis ça en passant, c'est que le Hayom Yom de Shabbat est toujours un peu plus riche que celui de la semaine. On n'a jamais une toute petite phrase quand c'est Shabbat, contrairement à la semaine. Ok, alors, In Bechukotai Telechu. Dieu dit au peuple juif, si vous allez dans mes chemins, si vous allez dans mes décrets, eh bien, il y a une interprétation de dire que ce im, si vous allez, c'est une façon d'implorer le peuple juif. Imze ou blashon tachanunim. Oui, tachanunim, ça veut dire on supplie, on implore. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a quelque chose d'extraordinaire ici, parce que, vous savez, dans la vie, de façon générale, on est toujours plus motivé à faire quelque chose quand on sent que quelqu'un en a vraiment besoin, quand on sent que quelqu'un en a vraiment envie. Et le fait de se dire que Hachem nous implore, nous supplie. Je sais que les mots sont un peu surprenants, mais c'est les mots qui sont utilisés ici par le rabbi précédent, Kemamar Hazal chez Kavanato, comme la parole de nos sages qui nous dit, Alvay Bechukotai Telechu, pourvu que vous allez dans mes chemins. Vous savez, il y a une autre paracha dans laquelle Dieu dit, regardez, aujourd'hui je vous ai donné le bien et le mal, la vie et la mort, et Rashi nous dit là-bas que c'est comme un homme qui montre à son enfant les différents terrains à acheter, et il se met sur un certain terrain et lui dit, voilà, il faut que tu choisisses celui-là. Ça veut dire que le fait, je vais continuer à lire dans les mots, le fait que Dieu, que Dieu nous supplie, que l'on garde la Torah, ça même, ça nous aide et ça nous donne de la force. La Adam, chez Yahamob, du frère Torah, à l'homme pour qu'il puisse tenir dans son bon choix. Ça veut dire que le fait de savoir, le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui nous implore et qui nous demande et qui veut absolument qu'on fasse, eh bien, ça va nous aider à le faire. Et deuxième chose, que la neshama, elle devient l'âme, notre âme, notre personne devient mehaler, elle avance. Vous savez que on approche de la fête de Shavuot et il y a la discussion connue entre Moshe et les anges. Les anges disent à Moshe, d'ailleurs on a un verset dans Tehilim qui parle de ça, ils disent à Dieu, les anges, Hachem, donne ta neshama, donne ta Torah sur terre. Et là, il y a une discussion très intéressante entre Moshe et les anges qui commence. Moshe leur dit, mais dites-moi, vous avez des parents? La Torah demande de respecter les parents. Vous avez des parents? Vous n'avez pas de parents. Donc si vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas à demander la Torah. En fait, ça répond à une question. Ça répond à une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi est-ce que Dieu me demande de faire des choses pareilles? Pourquoi est-ce que on a tellement d'envie, comme cette fameuse phrase de Rabbi Yitzhak de Barbitiev, il disait, Hachem, tu as mis toute la sagesse dans les livres et toutes les envies et tous les plaisirs devant les yeux. Si tu avais fait le contraire, on aurait pu tenir. Mais quand tu nous demandes de faire quelque chose et que pour pouvoir contrer ça, il faut le trouver dans les livres, ça devient très difficile. Eh bien, la réponse, on l'a aujourd'hui, on l'a dans ces quelques phrases. La différence entre un homme et un ange, c'est la capacité que l'homme a d'avoir plusieurs volontés et de choisir. Et c'est la base de toute la Torah. Parce que le libre arbitre, il est au centre de tout. Si on n'a pas le choix de faire quelque chose, alors à quoi ça sert de nous demander de le faire? Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a créé le monde finalement pour l'homme. Et l'homme, c'est la finalité de tout. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a créé sur Terre, avec ses envies, avec ça que quand on se demande, mais pourquoi il y a tellement d'envie? Ben justement, c'est pour que tu le fasses. C'est pour qu'on sache si tu en as vraiment envie. Cinquième point d'aujourd'hui, c'est que lorsque Mashiach arrivera, on va découvrir l'avantage de la pshitout. Alors, comprendre une chose parce que c'est un sujet qui revient très 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 souvent dans la chassidoute, la notion de tmimout, de pshitout, de simplicité. En fait, essayez de vous rappeler la première fois que vous avez entendu des notions spirituelles et que vous y avez cru et que ça vous a parlé et que ça vous a fait changer. D'accord? Pour beaucoup de gens, ça va être dans l'enfance, par exemple. On prend les choses telles qu'elles sont. Plus on grandit et plus on est méfiant. Plus on grandit et plus on a du mal à faire les choses. On raconte que on a dévoilé un jour au Baal Shem Tov qu'il avait quelqu'un qui se trouvait au même niveau que lui dans le Gan Eden. Alors il a voulu absolument le rencontrer. Et quand il est arrivé pour le voir, il s'est rendu compte qu'il mangeait énormément. Et donc repas du matin, repas du midi, il rajoutait certainement des repas. Et puis le Baal Shem Tov reste quelques jours avec lui. Il se dit, bon, peut-être que Shabbat, on va voir quelque chose d'extraordinaire dans son travail spirituel, mais toujours rien, il mange encore plus Shabbat que la semaine, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Et à la fin de Shabbat, il lui dit, bon, il faut que tu me dises, c'est quoi ton secret, pourquoi tu manges autant? Et ce juif lui dit, écoute, quand j'étais petit, mon père a été capturé par des gens, et il en est mort. Et il est mort parce qu'il était très très maigre. Et moi, si un jour ça m'arrive, la raison pour laquelle je mange, c'est que le jour où on va... Alors, il y a deux versions dans l'histoire. Certains disent que le jour où il va être brûlé, parce que son père a été brûlé vif, il va pouvoir brûler. Alors, une fois, j'ai entendu une interprétation différente, parce qu'il y en a qui disaient que les Juifs ont assez brûlé. J'ai bien aimé la deuxième, je la préfère. Il a dit, le jour où on va m'attaquer, comme j'ai mangé et que je suis bien portant, je vais pouvoir me venger, je vais pouvoir me défendre. Le point, c'est quoi dans cette histoire? C'est la notion de la pshitout, la notion de l'intégrité, de la simplicité. Ce juif-là, en fait, mangeait tous les jours pour ne pas que sa fierté juive soit mise de côté. Et le Baal Shem Tov, aussi grand soit-il, a atteint le même niveau que lui d'une certaine façon, avec tellement de travail. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être parfois très difficile à comprendre. Et ce qu'Ayamiam nous dit, c'est que lorsque Mashiach arrivera, eh bien, on va pouvoir comprendre ça. Je lis la suite dans les mots. On va comprendre la pshitout, la simplicité et la sincérité qui est dans le travail des gens simples, qui prient, Shemit Palelim, Vamrim, Telim, Bitnimut, qui prient et qui disent Telim avec simplicité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, beaucoup n'avaient pas accès à l'école et travaillaient très très tôt. Et donc, il ne pouvait pas étudier, il n'avait pas les moyens, c'était quelque part, si on peut dire, bouché. Et la seule chose qu'ils étaient capables de faire, c'était d'étudier. C'était pas d'étudier, pardon, c'était de dire les Tehillim. Et donc, cette capacité-là à être sincère à 100%, on ne la comprendra que quand Mashiach arrivera. Je vous ramène à l'histoire que j'ai racontée hier ou avant-hier, dans les derniers jours. D'un juif qui priait tous les jours pendant des heures et pour vous faire court, il arrivait à avoir une intensité tellement grande dans sa tefila juste par le fait qu'il se concentrait sur chaque mot et qu'il se disait que Dieu est présent dans chaque mot. Et cette capacité à en arriver là, elle est extraordinaire et quelque part, quand on est intelligent, eh ben, on perd cette sincérité. Donc, aujourd'hui, parfois, surtout dans les moments où c'est le cœur qui doit parler plus que l'intellect, comme pendant la prière, on doit essayer de les copier, mais on ne comprendra cette qualité pleinement, uniquement, quand Mashiach arrivera.